Conakry 8h30 à Cotonou et Paris 7h30 à Dakar.
RFI Matin.
Vincent Dublanche, une campagne toujours aussi tendue au Sénégal.
Les agressions physiques entre militants des différentes coalitions, les prises de bec verbales entre les leaders politiques rendent la situation explosive. Les appels au calme se multiplient. On va revenir sur les prises de paroles africaines. Hier, à la COP Climat, à Bakou en Azerbaïdjan, on va entendre également dans ce journal l'un des dissidents du FPI en Côte d'Ivoire qui conteste toujours la réélection à la tête du parti de Pascal Affine-Guessant. On en a parlé ce week-end sur RFI. On vous raconte également l'audition et la confrontation d'Olivier Bocco et d'Oswald Romeki au Bénin devant la criette. L'élection présidentielle aujourd'hui au Somaliland. Et puis le journal des sports dans 10 minutes, les qualifs de la CAN qui aura lieu dans un an. Le Togo se déplace au Libéria à 16h temps universel et devra gagner en plus d'espérer un faux pas demain de la Guinée équatoriale dans son match contre l'Algérie. Et d'abord le Sénégal. Donc, c'est une fin de campagne pour les élections législatives anticipées sous haute tension. Le vote a lieu dimanche. Ces derniers jours, les affrontements verbaux et physiques, dans certains cas, entre le PASTEF, notamment du Premier ministre Ousmane Sonko, et la coalition Ousmane Sakadou du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, se sont multipliés. Attaques de caravanes, droit légitime à la riposte, d'après les mots du Premier ministre hier. Dans la soirée, Ousmane Sonko est revenu sur ses propos. N'attaquez personne, ne frappez personne, ne provoquez personne, désactivez tout, mais qu'on reste vigilant, a-t-il dit. Hier, Barthélémy Diaz a lui aussi pris la parole devant ses sympathisants. Reportage Gwendal Lavina.
Ce devait être une conférence de presse au siège de la coalition Sam Sakadou, mais sa tête de liste s'est retrouvée barricadée à son domicile. Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, a donc fait venir journalistes et militants jusqu'à lui. Malgré la musique, la tension est palpable. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre car un peu plus tôt dans l'après-midi, des militants du PASTEF, dont le meeting avait lieu dans la zone, ont tenté de s'approcher. Marie Chantal habite le quartier.
Vraiment, c'est déplorable. Je ne m'y attendais pas. Il pouvait bien venir faire sa campagne, venir avec sa caravane, sans pour autant semer toute cette zizanie. On a reçu des cailloux, du gaz lacrymogène à la maison. On ne pouvait plus respirer. Ça, c'est inadmissible.
Un sentiment partagé par ce sympathisant de la coalition Sam Sakadou qui en veut à Ousmane Sonko et lui reproche d'attiser la haine et la violence.
Quand on est Premier ministre, il y a des discours qu'on ne doit pas tenir. Sonko doit tenir des discours de vérité. Un Premier ministre a une obligation de parler correctement. Le courage qu'on porte, lui, il l'a pas.
Longuement applaudi, Barthélémy Diaz a dénoncé le comportement d'Ousmane Sonko et l'arrestation de plusieurs membres de son service de sécurité. Puis il a lancé un appel à ses électeurs.
Évitez surtout d'accepter de verser dans le jeu de la manipulation, dans le jeu de la violence et dans le jeu de la terreur.
Pour les trois derniers jours de campagne, Barthélémy Diaz sillonnera la ville de Dakar afin de convaincre les derniers indécis. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
De son côté, l'ancien Premier ministre Amadou Ba invite le président Diomaye Faye à agir. Le leader de la coalition Jam Ak Njarin invite aussi à la retenue les autres acteurs politiques. Au sommet des chefs d'État de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, près de 80 dirigeants du monde entier doivent prendre la parole, ils la prennent d'ailleurs depuis hier, ils vont continuer aujourd'hui. Les dirigeants des pays africains sont très représentés à cette COP29 climat. Ils ont plaidé hier pour un accord financier historique sur l'aide des pays riches au début d'une des négociations climatiques les plus difficiles depuis l'accord de Paris en 2015, il y a 9 ans. Donc la plupart des dirigeants du G20 qui sont appelés à contribuer le plus en raison de leur responsabilité historique, de la responsabilité de leur pays dans les réchauffements climatiques, eh bien ils ne sont pas à Bakou. Jeanne Richard.
Une quinzaine de dirigeants africains a pris la parole ce mardi. L'occasion de rappeler les terribles catastrophes qui ont récemment frappé le continent. Sécheresse, vagues de chaleur, inondations ou cyclones. Et les pays riches responsables historiques du changement climatique se sont engagés à aider les plus vulnérables à faire face, a rappelé Fornia Singbe, le président du Togo.
L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré.
Or, l'argent promis a tardé à être rassemblé et Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, appelle désormais à une aide bien plus conséquente.
Les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Le nouvel objectif pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars.
Ce mercredi, les représentants du Gabon, de la RDC ou encore du Kenya doivent à leur tour s'exprimer. En parallèle, les négociations ont déjà débuté.
Jeanne Richard du service environnement climat de RFI. En Côte d'Ivoire, le courant dissident du Front populaire ivoirien appelé Valeurs et démocratie dénonce les décisions prises lors du congrès du parti samedi à Yamoussoukro. Congrès au cours duquel Pascal Affine-Guessant a été reconduit à la tête du FPI, désigné aussi candidat à la présidentielle de 2025. Plusieurs dissidents ont été suspendus du parti. Parmi eux, Issiaka Sangaré, il dénonce le manque de dialogue en interne.
Nous, au niveau du courant, nous ne reconnaissons pas les décisions issues de ces assises-là. Donc pour nous, Pascal Affine-Guessant n'est pas en l'état actuel des choses, président du Front populaire ivoirien, il n'est pas non plus le candidat pour l'élection de 2025. Le congrès s'est quand même tenu dans un contexte difficile. On a pu constater qu'il y a eu beaucoup de difficultés à mobiliser. Il n'y a pas eu de tentative pour unir les différentes approches divergentes. D'autre part, il y a eu des décisions qui vont renforcer les divisions en interne. Donc des décisions telles que la suspension de certains camarades parce qu'ils sont membres du courant ou d'autres simplement parce qu'ils ont saisi le tribunal pour faire en sorte que leurs droits soient pris en compte au niveau donc du parti. Pour ces différentes raisons-là, les procédures qui ont été violées, nous considérons que ce congrès est entaché de beaucoup d'irrégularités.
Un propos recueilli au micro RFI de Binta Diagne, les dissidents du FPI qui s'en remettent à la justice ivoirienne qui devrait se prononcer le 28 novembre sur les contentieux internes donc au Front populaire ivoirien. Au Bénin, le dossier Olivier Bocco et Oswald Romeki toujours en instruction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Ils ont tous deux été inculpés avec un troisième homme le 1er octobre dernier pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics. La chambre d'instruction les avait convoqués ce lundi. Nouvelle audition à huis clos. Les trois juges ont organisé les premières confrontations du dossier. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Les confrontations se sont déroulées dans le secret du cabinet des juges de la commission. Les inculpés ont fait face à chacun à trois personnes, une à une, jamais deux en même temps. Selon nos informations, Olivier Bocco est passé le premier devant les juges. Il a été confronté à ses deux co-accusés, l'ancien ministre des Sports et le comptable de son beau-frère, puis avec le colonel, chef de la garde républicaine. L'officier supérieur n'est pas poursuivi. Selon la déclaration du procureur au début de l'affaire, c'est lui que les deux personnalités ont approché avec une proposition d'argent dans le but d'organiser un coup d'État. Trois confrontations également pour Oswald Romeki avec Olivier Bocco, le comptable et le colonel. Les confrontations ont duré plusieurs heures avec des pauses. Il s'agit de leur troisième passage devant la commission, toujours à huis clos. Une source bien informée rapporte qu'il n'y a pas eu d'aveu. Les avocats multiplient les recours contre l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt de leurs clients. On apprend qu'ils ont formulé un pourvoi en cassation contre le rejet de la CRIET. L'instruction va vers la fin, confie une autre source. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Mali, pas de libération provisoire pour les 11 cadres politiques de la déclaration dite du 31 mars. Ces anciens ministres, dirigeants de partis engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel avaient été arrêtés en juin dernier. Ils sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Le juge d'instruction avait demandé leur libération provisoire en septembre. Le procureur s'y était opposé. La cour d'appel lui a donné raison hier. Une organisation non gouvernementale française interdite d'agir au Niger. L'ONG Acted se voit retirer son autorisation. Pas plus d'explications des autorités nigériennes de transition pour le moment. La présidentielle approche au Ghana. Et toujours dans un imbroglio juridico-politique, le scrutin a lieu le 7 décembre. Hier, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle une décision du speaker, le président du Parlement, décision qui a rendu le parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée. Les explications de Victor Cariou.
La décision de la Cour suprême représente le triomphe de l'état de droit. Voici comment, à l'issue du jugement, a réagi Alexander Afenyo Markin, le chef du groupe du Nouveau Parti Patriotique au Parlement. C'est lui qui, il y a près d'un mois, est allé contester la décision du président du Parlement Alban Bagbin de déclarer vacants 4 sièges de parlementaires. Le speaker s'était pour cela appuyé sur l'article 97 de la Constitution. Une décision qui avait alors provoqué un changement de majorité en faveur du Congrès démocratique national, le principal parti d'opposition, et par la suite, entraîné un chaos au Parlement ajourné de multiples fois. Une décision jugée donc inconstitutionnelle par la Cour suprême, qui n'a pas encore rendu public le détail de ses motivations. Ce mercredi 12 novembre, le président du Parlement, Alban Bagbin, n'avait, quant à lui, toujours pas réagi à la décision de la Cour. À voir maintenant si le Speaker procède à un rappel du Parlement actuellement ajourné, à seulement 3 semaines des élections générales du 7 décembre. Victor Cariou, Accra, RFI.
Des élections au Somaliland, élections présidentielles, l'État autoproclamé indépendant, appel au vote un peu plus d'un million d'électrices et d'électeurs. La Somalie considère toujours que le Somaliland fait partie intégrante de son territoire. Ça n'a pas empêché les autorités d'Hargeisa d'organiser donc des présidentielles. Celle-ci sera la 4e depuis la sécession en 1991. Florence Maurice, 3 candidats sont en lice dans un contexte très tendu.
Le sortant Musbehi n'est pas en position de force. Son bilan est controversé. Il a reporté l'élection de 2 ans. Il a réprimé dans le sang les manifestations qui en ont découlé. Et son pays est déchiré depuis 2023 par un conflit sécessionniste. Son armée a même dû se retirer de la province de Sol dans le sud-est au profit d'une rébellion armée qui réclame son rattachement à la Somalie. Pour principal argument de campagne, Musbehi avance un protocole d'accord annoncé en début d'année avec l'Éthiopie. Ce dernier prévoit d'octroyer à Addis Abeba un accès à la mer en échange de la reconnaissance du Somaliland. Mais cet accord a mis le feu aux poudres dans la région et semble rester lettre morte depuis. En face, 2 candidats, Faisal Ali Warabe du Parti de la Justice Sociale et surtout Abdirahman Hiro du Parti Wadani, l'opposant historique. Lui a fait campagne sur la promesse de maintenir l'unité du Somaliland, accusant le président sortant d'avoir attisé les divisions claniques. Dimanche, il a reçu un soutien de poids, celui du vice-président sortant. Il a aussi une revanche à prendre. En 2017, il avait contesté sa défaite pendant une semaine avant de la concéder, sans reconnaître les résultats, mais avait-il dit à l'époque, pour maintenir l'unité et la paix du Somaliland.
Et à Hargeisa, au Somaliland, il est 10h42, Andréane Mellard.
Au journal, Vincent Dublanche, merci à vous, belle journée.